Bonsoir. Vous m'entendez bien ou est-ce que vous m'entendez? Oui.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir affronté les éléments naturels pour venir jusqu'ici. C'est évident, ce soir avec cette pluie. Je me présente très rapidement pour celles et ceux qui découvriraient le Café Philo. Donc, je co-anime le Café Philo, le Philomania, en alternance avec Laurence. Laurence Lacroix, vous avez eu l'occasion de voir et d'entendre le mois dernier pour le premier Café Philo de la saison. Et donc, d'un mois sur l'autre, c'est Laurence ou moi. Donc, moi, je suis Nicolas Déré.
Je pense que votre micro ne fonctionne pas.
Ah, d'accord.
Hop, voilà. Je m'aime bien comme ça. C'est mieux ?
Oui.
Ouais.
Merci. Donc, Nicolas Déré, je suis professeur de philosophie ici même au lycée Jean Zay, et puis je suis chargé de cours un petit peu dans le temps supérieur également. Voilà, donc j'explique un petit peu le déroulement d'un café philo pour celles et ceux qui le découvriraient ce soir. Bon, dans un premier temps, on va recueillir vos propositions, des questions, des thèmes sur lesquels vous auriez envie de débattre ce soir. Ensuite, on vote à main levée pour les questions qui nous intéressent le plus. Ça veut dire que vous pouvez voter pour autant de sujets que vous souhaitez, voire même pour la totalité des sujets proposés si tous ceux qui vous sont proposés vous intéressent. Et ensuite, on est parti pour un débat qui devrait s'achever vers 20h30, 20h40. Il suffit d'un petit temps de convivialité puisqu'on vous offre, un peu. Marie-France, notre présidente, me demande de vous rappeler que sur le flyer, donc vous avez la date des prochains cafés philo jusqu'au mois de janvier. Il y aura un deuxième flyer pour la deuxième partie de l'année. Vous avez, on a le temps d'en reparler, les trois conférences que nous organisons cette année qui auront lieu pour les premières au mois de mars. Et n'hésitez pas, si ça n'est pas déjà fait, à noter votre adresse électronique, si vous souhaitez, sur une petite feuille là-bas, pour recevoir les informations régulières envoyées par Philomania. Sinon, vous pouvez envoyer un message au contact qui est indiqué sur le flyer a.philomania@gmail.com. Voilà pour les différentes informations pratiques. Bah écoutez, je vous écoute, on vous écoute pour savoir donc sur quel thème, quel sujet vous auriez envie de discuter ce soir, ce qui vous anime, ce qui vous intéresse, est-ce que vous auriez envie de mettre en débat. N'hésitez pas à proposer des questions ou même des thèmes, sans forcément le formuler de manière interrogative.
Moi j'ai bien.
Alors, attendez, on va vous donner le micro, monsieur. Pour que tout le monde puisse vous entendre. J'ai l'impression que mon micro n'est pas très fort. Oui, monsieur.
Bonsoir. Moi, j'aime bien le sujet, mais c'est le sujet de Mazarine Pinjot, et une philosophie vivre sans, une philosophie du manque qu'elle fera apparemment en juin 2025. Je trouve que moi, c'est un sujet, je ne sais pas si c'est parce que je me suis arrêté de filmer depuis un mois, mais qui m'intéresse particulièrement.
Sur la philosophie du manque.
Ouais.
Sur la philosophie du manque, en sachant qu'on aura l'occasion d'entendre Mazarine Pinjot sur cette question, puisque c'est le thème de son dernier ouvrage qui est paru cette année.
La philosophie du manque.
Oui, monsieur.
Le thème, c'est « Sommes-nous maîtres de nous ?» Sommes-nous maîtres de nos vies?
Sommes-nous maîtres de nos vies? Vraie question. Sommes-nous maîtres de nos vies? N'hésitez pas si vous avez des propositions, de thèmes, d'interrogations. Donner le micro, madame.
Alors, je m'interroge en ce moment avec les guerres qui existent sur notre continent, pire d'ailleurs,
Alors moi, je me pose la question, mais est-ce qu'il est possible qu'il y ait une guerre juste? Et comment est-ce qu'on peut penser de cette chose? Voilà.
Y a-t-il des guerres justes?
Alors,
Oui, on avait évoqué cette question il y a quelques mois.
On l'a traité il n'y a pas très longtemps.
Il y a quelques
mois. On a un enregistrement du Café Philo de ce jour-là. Donc, si vous voulez me donner votre adresse mail, je me ferai un plaisir de vous envoyer un lien pour que vous puissiez télécharger le Café Philo sur ce thème-là.
Bonsoir. Alors moi j'avais un sujet que je voulais donner plutôt en géographie, démographie, mais qui peut être intéressant en philo, c'était « Sommes-nous trop nombreux ?»«
Sommes-nous trop nombreux ?» Ce qui n'est pas sans lien avec la philosophie du manque.
Bonsoir. Alors on parle beaucoup d'ironie voltairienne en ce moment. Pour insulter son adversaire en faisant semblant de le louer, et je me demandais est-ce que c'est pas une manière de se détourner du réel, de la vérité.
Donc sur l'ironie, c'est ça?
Oui.
D'accord. Comment est-ce qu'on pourrait formuler ça sous forme de question Je ne voudrais pas trahir votre pensée. L'ironie, en soi, on fait quelque chose de très précis. L'ironie nous détourne-t-elle de la réalité? Ou alors, de manière plus large, l'ironie est-elle toujours souhaitable? Sur la valeur même de l'ironie?
Peut-être. Je note quoi?
On va faire quelque chose de large, je pense. Sur l'ironie est-elle toujours louable, toujours souhaitable? Et on repart.
Bonsoir. Je vais être plus terre à terre.
Oui.
N'emploie-t-on pas parfois, abusivement, la théorie de complot, le complotisme, pour éviter un dialogue authentique entre des pays, entre des États, etc.
Donc quelque chose autour du complotisme? Et de savoir si l'accusation de complotisme n'est pas trop facile.
Donc on met quoi?
L'accusation de complotisme n'est-elle pas parfois trop facile? C'est ça, une mesure d'évitement, oui. N'hésitez pas, oui.
Bonsoir. Avons-nous nécessairement besoin de modèles?
Avons-nous nécessairement besoin de modèles?
La vie a-t-elle un sens?
La vie a-t-elle un sens? Alors là, si on n'est pas au Café Philo.
Pardon. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'on parle du bien de l'information. C'est-à-dire que quels que soient les sujets, surtout les sujets très d'actualité, vous dévoilent qu'une partie, une façon de voir, et qui fait que nos jugements sont pas implicitement celui de l'information qu'on nous donne, mais il nous manque l'autre morceau qui fait que le biais de l'information nous empêche d'avoir des jugements justes.
Oui. Sommes-nous bien informés?
Non, ça va plus loin que ça. C'est je ne pose pas la question. C'est vrai que vous dites, sommes-nous bien informés? Moi, je dis, nous sommes mal informés. Et le biais, la mauvaise information, la malinformation, ne génère pas une opinion publique dirigée ou une opinion publique biaisée, tout simplement.
La manipulation de l'information.
Donc quelque chose autour de la manipulation de l'information.
C'est pas la manipulation, vraiment. C'est la structure de l'information. C'est-à-dire que l'information est partielle parce qu'elle est non pas, elle est unique. C'est-à-dire que la source, bon, c'est en France, l'agence d'information, et tous les journaux vont reprendre le thème venant de cette source globale. Et ce qui veut dire qu'on ignore tout le reste. Donc l'information qu'on reçoit est uniforme, unique et biaisée. Et quelle influence cela a-t-il sur l'opinion, le collectif?
J'essaie de trouver une formulation pour restituer vos enjeux. Je me permets d'avoir une vision, comme j'avais fait pour l'ironie, un petit peu plus large peut-être, où on reprendra vos éléments. Peut-être que serait une bonne information? On peut peut-être penser la question à l'inverse et en revenir ensuite à ce que vous appelez les biais d'information. Que serait une bonne information? En termes d'accès à la connaissance et effectivement sur les conséquences éthiques ou sociales. Y a-t-il d'autres propositions? On en a déjà un certain nombre. Oui, madame.
Peut-on vivre en harmonie avec la nature?
Très bien. Peut-on vivre en harmonie avec la nature? Toute une série de questions assez diverses d'ailleurs les unes par rapport aux autres. Est-ce qu'on procède, on passe au vote? Personne ne sera frustré? Non. Je te laisse peut-être le micro.
Alors je rappelle d'abord les sujets, tous les sujets. Puis après,
oui.
Alors, la philosophie du manque. Sommes-nous maîtres de nos vies? Sommes-nous trop nombreux? L'ironie est-elle toujours louable ou souhaitable? L'accusation de complotisme n'est-elle pas trop facile? Avons-nous nécessairement besoin de modèles? La vie a-t-elle un sens? Que serait une bonne information? Peut-on vivre en harmonie avec la nature?
Merci. Alors, sujet 1, donc encore une fois, vous pouvez voter pour autant de thèmes que vous souhaitez.
Alors, sujet 1, la philosophie du manque.
La philosophie du manque, en lien... 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Sommes-nous maîtres de nos vies? Sommes-nous trop nombreux?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14.
L'ironie est-elle toujours louable ou souhaitable?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
L'accusation de complotisme n'est-elle pas trop facile?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14.
Avons-nous nécessairement besoin de modèles ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
La vie a-t-elle un sens ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Que serait une bonne information ?
Avec la question des biais d'information, comme le rappelait monsieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Dernier sujet, peut-on vivre en harmonie avec la nature ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Donc il y a un sujet qui se dégage. Avons-nous nécessairement besoin de modèles avec 29 voix ?
Très bien. Alors, en tout cas, merci pour toutes ces propositions. Alors, Alors la tradition, c'est la personne qui a proposé le thème, la question, et le micro pour un peu expliquer ce qui l'anime dans cette question. Et j'ai oublié de rappeler une règle tout à l'heure pour ceux qui découvrent le Café Philo, pour essayer, comme on est assez nombreux, je ne sais pas si on est trop nombreux, mais en tout cas, nous sommes assez nombreux, que tout le monde puisse parler. La règle, c'est que on donne la priorité, on donne le micro à celles et ceux qui n'auraient pas encore pris la parole, pour essayer de répartir les prises de parole de la manière la plus équitable. On te donne le micro peut-être pour expliciter surtout qu'est-ce qui t'anime dans cette réflexion.
Ah, j'aurais dû prévoir un petit peu mieux.
Ah oui.
On ne peut pas balancer les sujets comme ça. La question du modèle, c'est aussi la question, je pense, de la valeur qu'on va donner aux choses et que parfois... il y a des choses qui nous semblent intéressantes ou que l'on vise parce qu'on a vu quelqu'un d'autre que l'on admirait qui pouvait le vouloir aussi. Mais du coup, je me demandais, est-ce qu'on peut vraiment choisir des choses, que ce soit choisir une voie, choisir quelque chose à acheter avec des valeurs qui nous sont propres, ou est-ce qu'on a besoin de suivre la voie de quelqu'un, de suivre la voie de choses qu'on nous a enseignées ou quoi pour... Voilà, enfin, c'est un peu entre qu'est-ce qui provient de nous, qu'est-ce qui provient de l'extérieur, qu'est-ce qui nous a été inculqué en fait par autrui, par une éducation ou quoi.
D'accord. On en vient quand même implicitement à des questions autour de la liberté, du libre arbitre, qu'est-ce qui nous pousse à choisir ceci ou cela. Et effectivement, est-ce que nos choix ne sont pas toujours prédéterminés ou en tout cas influencés ou en partie orientés par des modèles que l'on se serait donné ou que l'on nous aurait donné au gré de nos trajectoires de vie, d'éducation, de socialisation, etc. Je veux bien, voilà, bah, n'hésitez pas, voilà, peut-être réfléchir un petit peu sur la notion de modèle et puis sur l'adverbe, le nécessairement. Avons-nous nécessairement besoin de modèles ?
Quelle est la définition du modèle ?
Est-ce qu'au départ, ça ne s'articule pas avec le désir ? On peut un peu penser au désir triangulaire de René Girard, la théorie de René Girard. Donc voilà, il y a un modèle dans ce triangle. on serait au désir en premier.
Donc oui, c'est que on reviendra sur la référence à René Girard et au désir mimétique, au triangle du désir chez René Girard. Peut-être pas tout de suite pour écraser le discours avec des références, mais effectivement, il y a l'idée que pour désirer, ou que la source du désir, c'est le rapport à un modèle. Que nos désirs ne viennent pas, ne tombent pas du ciel, ils ne viennent pas de nulle part, et qu'ils s'ancrent dans une économie psychique qui elle-même se rapporte à des modèles donnés. On reviendra sur cette question du triangle du désir. Oui, monsieur.
Je répondrai très affirmativement.
C'est bien le micro. Ouais, comme ça.
Je répondrai très affirmativement. Oui.
Ça marche. Ouais.
Ah, excusez-nous pour ce problème technique.
Oui. Je dirais très affirmativement, non seulement nous avons besoin du modèle, mais nous sommes, par notre existence même, soumis au modèle. Un enfant à la naissance ne va commencer. Il apprend à marcher par le modèle de ses parents. Et tout ce qu'on fait, que ce soit manger, marcher, dormir, faire, est forcément suivant un modèle. Donc nous avons, oui, besoin d'un modèle. On ne passe pas à côté. Ou alors, on est l'enfant sauvage. On n'est plus ce que nous sommes.
Oui.
Oui, ça, pour un petit peu ce que dit le monsieur, c'est que je pense notamment à l'écriture ou la motricité fine. Dans un premier temps, quand un petit fait des lettres, donc il a besoin d'un modèle, voire plus, il a besoin de pointillés pour relever les pointillés, notamment en danse aussi, quand même. Dans un premier temps, on a besoin de reproduire des formes. Je pense que c'est un niveau, en fait, dans certains domaines, en fait, pour dépasser, il faut quand même des acquisitions techniques qui sont souvent apprises par mimétisme ou par répétition. Et peut-être qu'après, on n'a plus besoin de ces modèles pour passer dans la création, justement.
Mmh. Ouais, ce qui pourrait être un petit... Ouais, donner un éclairage et élargir un petit peu la question, c'est de s'interroger 30 secondes sur la notion même de modèle. Puisque la question qui se pose, et la réponse que vous avez commencé à y apporter, c'est de rapporter le modèle finalement aux liens sociaux. C'est-à-dire effectivement l'éducation, c'est une histoire de modèle et de contre-modèle. L'apprentissage, comme vous l'avez dit, ça repose sur une structure de mimétisme, d'imitation, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de penser le modèle peut-être au-delà de cet ancrage anthropologique. Le modèle, c'est aussi ce que manipulent les scientifiques. Un physicien, un biologiste, enfin un scientifique, un historien, un géographe, un démographe, enfin bref, tout ce que l'on veut, construisent des modèles pour se rapporter à la réalité. C'est la différence entre la carte et le territoire. La carte, c'est le modèle du territoire, ça n'est pas le territoire. La carte d'Orléans, c'est pas Orléans. Une fois que j'ai examiné la carte d'Orléans, je ne sais pas ce que c'est qu'Orléans. Je ne connais pas Orléans. Je connais les orientations, les points cardinaux, les monuments, etc. Mais on voit bien que finalement, le modèle, il se construit à partir de la réalité. La carte, elle se construit à partir du territoire. Mais c'est un choix, le modèle. Quand on établit une carte, je reprends sur cette figure de la carte, on opère une sélection, on opère ce qu'on appelle c'est un travail d'abstraction, c'est-à-dire on choisit de ne pas conserver tel ou tel élément de la réalité empirique, telle ou telle réalité du territoire, et de mettre en avant ceci plutôt que cela. Enfin, je sais pas, on a tous vu ces cartes modifiées. Vous allez mettre en avant les magasins de je ne sais quoi, tel ou tel type de voies, les voies piétonnes, les voies cyclables, les voies pour autoroute, etc., etc. Et on voit bien que finalement, le modèle, c'est ce que les humains inventent. Le modèle est une invention. Il n'est pas donné, c'est ce que les humains inventent à partir d'une abstraction de la réalité. La carte de l'univers, les modèles physiques en vigueur, que ce soit Ptolémée, Galilée, Copernic, Einstein et autres, plus contemporains que dont je serais bien incapable de dire un traître mot, ces modèles-là ne sont pas la réalité. Ce sont des modes de représentation de la réalité qui nous semblent les plus informatifs, les plus éclairants, les plus légitimes, les plus justes, tout ce que vous voulez. Mais ce ne sont pas la réalité. Et ce qui est intéressant, c'est, avons-nous nécessairement besoin de modèles ? J'allais dire qu'on a un ancrage, excusez-moi, je vais employer un gros mot de professeur de philosophie, on a un ancrage épistémologique, c'est-à-dire du point de vue de la... Je vous ai dit que j'allais employer un gros mot. Du point de vue de la connaissance, apparemment, visiblement, depuis que la science est apparue, il n'y a pas d'autre connaissance du monde, de la réalité, qu'à travers des modèles. Parce que s'il n'y avait pas de modèles, nous serions tous rivés à nos perceptions, à notre rapport intime, subjectif et perceptif du monde dans lequel on vit. Pour moi, Orléans, c'est ma rue, c'est mon quartier, c'est là où je pose mon vélo, c'est mes voies habituelles, et il y a mille et une rues, mille et un quartiers d'Orléans que je ne connais pas, et que j'ai pu voir sur une carte, mais voilà, si vous me dites les Blossières, ok, je vois où c'est, mais je n'ai aucune raison dans ma vie d'y aller, etc., et peut-être des résidents des Blossières ici, mais voilà, je ne sais pas. Et donc vous voyez bien que finalement, la connaissance... c'est la construction d'un modèle. Et toute la question, c'est de savoir, du point de vue de la connaissance, hein, et puis après on reviendra sur les modèles sociaux et psychologiques qui nous animent, mais c'est la même problématique, toute la question, c'est finalement de savoir, mais quelle confiance peut-on accorder au modèle ? Est-ce que le modèle qui est censé représenter la réalité représente réellement la réalité ? Quelle confiance peut-on accorder au modèle ? Pendant des siècles et des siècles, et ce n'est pas simplement pour des raisons d'obscurantisme religieux, nous avons considéré que la Terre était au centre de l'univers, que le Soleil tournait autour de la Terre, enfin bref, le système ptoléméen, et pas que pour des raisons religieuses de Dieu créer la Terre, etc. On avait ce modèle en tête, et puis à un moment donné, hop, patatrac, on a un Copernic, on a un Galilée, on a des cartes qui nous disent « Mais non, si vous dites là, géocentrisme, c'est n'importe quoi. » Nous, on met sur la table un autre modèle, on appelle l'héliocentrisme, et puis vous allez voir ce que ça va, vous allez voir, et puis vous allez apprendre. Et aujourd'hui, ce qu'on apprend à nos enfants, c'est que, oui, la Terre, elle est sphérique, elle n'est pas plate, et que, visiblement, elle fait partie d'un système solaire, et que ce système solaire lui-même fait partie d'une galaxie qui lui-même fait partie de milliards, de milliards, de milliards, de milliards de galaxies. Quelle confiance peut-on accorder au modèle ? D'un point de vue scientifique, quelle confiance peut-on accorder à une carte ? Quelle confiance peut-on accorder à un modèle social ? Quelle confiance peut-on accorder à des modèles éducatif, quelle confiance peut-on accorder à des modèles que on nous propose au cours de notre existence ou que les médias nous proposent comme étant à suivre. Pardon, j'ai parlé longtemps.
Je ne sais pas si...
Oui. Un, deux...
Allez-y.
Pardon, excusez-moi. Oui,
je voulais justement un peu embrayer sur ce que vous disiez sur la confiance à accorder au modèle. Donc moi, dans le cadre de mon travail, je suis confronté notamment à des modèles climatiques. Et en fait, même quand on a des outils de modélisation qui paraissent fiables à un moment, qui paraissent extrêmement fiables, en fait, on peut se rendre compte plus tard qu'on s'est trompé. Il y a une blague qui circule souvent dans le milieu de la physique sur Rutherford qui avait proposé un modèle de l'atome, qui avait eu un prix Nobel pour ça. Pas de bol, il était faux. C'est un peu caricatural, mais ça résume la question de se dire quelle confiance on accorde aux connaissances scientifiques actuelles et la façon dont elles sont transmises au grand public, parce que le grand public, quand on lui explique qu'un modèle finalement est erroné et inexact, s'il n'a pas accès à la façon dont ces modèles ont été construits, en fait, les gens vont se dire qu'on nous a menti. Donc, ils vont se sentir quelque part, on est susceptible de se sentir trahi par quelqu'un en qui on avait confiance, par une institution en qui on avait confiance, alors qu'elle prétendait simplement décrire la réalité telle qu'elle pouvait y accéder à un moment donné. Et c'est aussi valable, pour revenir un peu sur la question initiale, sur la façon de prendre quelqu'un comme modèle, c'est aussi quelque chose qu'on peut ressentir, dans le sens où on a cherché à imiter ou à marcher dans les pas de quelqu'un, et en fait on se rend compte que cette personne s'est fourvoyée, je me suis fourvoyé, je me sens trahi, alors qu'elle n'avait même pas cherché à ce que je la suive au départ. Voilà.
Moi, pendant des années, et cette année je ne vais pas le faire, j'ai, à un moment dans mes cours proposés aux élèves, j'ai présenté l'abbé Pierre comme un modèle.
Oui, voilà.
Alors, d'abord parce que pour moi, c'était un modèle, vraiment, de vertu, enfin pour moi comme pour, j'imagine, un grand nombre d'entre nous. J'étais totalement ignorant de toutes ces atrocités. Et c'était Grantin, l'abbé Pierre, sa vie, son œuvre, et ça, enfin, c'était... Ben voilà, effectivement, on se sent... je me suis fourvoyé, on s'est fourvoyé, et puis on se sent trahi, oui. Oui, c'est sûr.
Oui, alors après, est-ce qu'on peut ne pas avoir du tout de modèle?
Ah, voilà.
Parce que ça pose la question, je suis d'accord complètement, mais ça pose la question du droit à l'erreur aussi. On ne peut pas imaginer que tout est vrai tout le temps, et la science notamment fait évoluer. Et pour prendre les choses à l'envers, actuellement, on a encore, enfin, il y a beaucoup de gens, de plus en plus, qui semblent penser que la Terre est plate. Donc à un moment donné, il faut quand même s'autoriser à faire confiance à des représentations, à des modèles, en science notamment, en se disant que peut-être ces modèles vont être détrônés ou affinés ou modifiés par la suite avec le facteur temps, le fait qu'on a des outils qui permettent de regarder autrement l'univers, etc. Parce que si on n'a aucun modèle, le commun des mortels, il n'a pas, lui, l'opportunité, la possibilité d'aller vérifier si la Terre est ronde ou si elle est plate. Il est bien obligé de se référer à ce que vous appelez des modèles, des théories, des choses. La seule chose peut-être qu'il faut enseigner, c'est que c'est provisoire. Ou pas, mais ça peut être provisoire. Après, sur les modèles sociaux, de modèles d'imitation, de mimétisme et tout, je me demandais si ça ne posait pas le problème aussi de l'inné et de l'acquis. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on est construit que par des copies, la créativité, etc. Ça vient peut-être en opposition à justement des choses connues, et ça, on donne envie de transgresser. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi un aspect dans chacun qui est inné et qui permet de ne pas, volontairement ou non, de ne pas seulement se référer à des modèles.
Ce que vous introduisez ici, là, il y a un élément nouveau dans notre discussion, c'est la question de la création et la créativité. Est-ce que se référer à un modèle, est-ce qu'il est nécessaire de se référer à un modèle pour créer? Ou est-ce qu'au contraire, la référence à un modèle ne vient pas inhiber toute forme de création? Dans l'histoire de la peinture, et de des arts figuratifs en général, c'est la crise de la modernité, fin 19e, début 20e siècle. Hein. C'est en disant, vous êtes gentils, mais nous on va faire de l'art abstrait, et je n'ai plus besoin d'avoir la nature devant moi, ou telle personne comme modèle, ou un cheval, ou je ne sais quoi. Moi je m'appelle Yves Klein, je fais un monochrome bleu. Ben voilà. Moi je m'appelle Malevitch, je fais un carré blanc sur fond blanc. J'ai pas besoin de modèle. Et plus vous êtes dans le modèle, moins vous êtes dans la création.
Je voulais faire le lien justement avec ce que vous venez de dire. Ce tableau n'est pas une table, vous avez le tableau de la table, et ce tableau n'est pas une table. Autrement dit, ça évoque aussi un problème de sémantique. Que signifions-nous par le langage?
Merci. Merci pour vos éclairages, c'est tout à fait constructif, intéressant. Concernant les modèles scientifiques, en fait, ce qu'il faut rappeler, je pense, c'est qu'en fait, tout modèle scientifique se situe dans un certain domaine de validité, dans un certain domaine d'application. Et en fait, la transmission d'un modèle en science devrait ou doit être toujours accompagnée
de son, une définition de son domaine d'application, de son domaine de validité. Les modèles sont construits à partir d'une certaine perception de la réalité et essaient de traiter en fait un certain domaine. Donc quand on sort de ce domaine, ben, il se passe, enfin, les modèles se cassent la figure ou se contredisent en fait. Je pense actuellement, enfin, par exemple, la mécanique galiléenne d'un côté et puis la relativité générale, bon, sont deux modèles qui sont corrects dans leur domaine et qui se contredisent, mais qui existent. Voilà. Et qui sont deux perceptions de la réalité aussi.
Oui.
Oui, pour moi, je parlais une seconde sur le modèle dans le domaine des connaissances scientifiques. Les publications scientifiques de bon niveau commencent toutes invariablement par en l'état actuel des connaissances, ce qui signifie bien que tout peut être mis en compte en permanence. Et puis, je voudrais parler d'une vision un peu caricaturale du fait de prendre des modèles et aussi de l'exploitation qui est faite du goût des modèles. Je voudrais évoquer la mode. Où chaque année, d'un seul coup, dans la saison, il y a un modèle qui est donné.
Le micro, il est...
Vous ne pouvez pas ?
Il ne marche pas très bien, très bien. Tiens, allez-y, ça va peut-être...
Il y a du fil.
Bon, on n'entend pas très bien ce micro. Le bazar.
Oui, je disais avec la mode, chaque année, à un instant T, on donne ce qu'on doit porter en termes de couleur, de forme, etc. Et tout le monde, enfin, beaucoup de femmes se conforment au modèle, les hommes aussi d'ailleurs. Et puis d'un seul coup, 6 mois plus tard, ben, c'est autre chose. Et on brûle ce qu'on avait adoré. Alors, outre que c'est une catastrophe sur le plan écologique, c'est évidemment une exploitation commerciale éhontée du goût de certains de se conformer au modèle.
Non, mais pour les personnes qui sont les plus proches, on peut donner le micro.
Ah,
monsieur.
Oui, je voulais parler des modèles. Je pense que le modèle, enfin, tout n'est pas acheté dans le modèle, malgré tout, parce que ça crée quand même un cadre, une marche à suivre. Mais là où aussi il faut relativiser,
c'est que.
Donc par rapport au modèle, il y avait la notion de d'émancipation du modèle, du schéma qui nous a été inculqué, peut-être des fois à la naissance. Et là c'est intéressant parce que bien sûr le modèle peut nous donner un cadre qui peut nous être bénéfique, mais l'émancipation à ce modèle peut être encore plus intéressant. Donc, cette émancipation vient après avoir écrit les bases grâce au modèle, mais par nous-mêmes, par nos réflexions, nos expériences, on arrive à dépasser ces modèles tout, et ces schémas tout faits.
Merci, c'est une noix pour les micros, c'est assez pénible. Donc l'idée que le modèle serait nécessaire dans un premier temps, et que on aurait ensuite, grâce à cette assise...
Pour donner un certain cadre, ouais. Mais qu'il ne fallait pas se rester figé dans ces modèles, et de pouvoir s'émanciper.
Pour s'en émanciper.
Et prendre, enfin, avoir son libre arbitre aussi de... Mais c'est comme dans toute chose, c'est acquérir de la connaissance, ça c'est nécessaire, mais après se faire sa propre connaissance.
Très bien.
C'est bon, si ça marche.
Ah, ouais. Monsieur.
Justement, pour rebondir là-dessus, aussi, ce que disait Madame la Présidente sur la mode, c'est qu'en fait, à s'émanciper. En fait, quand on est exposé à un modèle comme celui de la mode, on a toujours le choix de la suivre ou non. En fait, on peut se dire que cette mode ne nous correspond pas et donc ne pas la suivre. On peut aussi décider, refuser catégoriquement de la suivre. Et en fait, est-ce que ce refus de modèle, il ne devient pas un modèle en soi? Parce qu'en fait, on va pouvoir se dire qu'en s'émancipant de la mode, ça crée une sorte de rébellion qui peut attirer, qui peut créer des émules. Et en fait, on va être attiré non pas par un modèle, mais par un contre-modèle. Et en fait, en s'émancipant, en cherchant à échapper à un modèle, on ne fait qu'en créer un autre. Et donc, alors j'ai pas envie de dire piégé, mais en fait, on se retrouve à suivre un modèle malgré soi.
Oui, je me permets peut-être là de reprendre un peu la parole et par rapport à ce que vous disiez, madame, à la première prise de parole suite à la question. Ce que vous évoquez, c'est ce qu'évoque, juste une petite référence rapidement, ce qu'évoque l'anthropologue, philosophe et psychologue, mais anthropologue René Girard, qui est décédé il y a quelques années, et qui effectivement a travaillé sur cette question des modèles et contre-modèles, pour en arriver à une thèse vraiment très très éclairante et assez radicale, qui consiste à dire que tout désir se forge et se nourrit à l'imitation d'un autre désir. Et que on ne peut pas chercher le... Alors, tout désir, finalement, se forge à l'imitation d'un modèle. Mais qu'il n'y a pas d'original. Il n'y a pas l'original dont ensuite il y aurait un certain nombre de copies qui seraient reproduites, ça c'est rare. Et que finalement mon désir se fait à l'imitation du désir de l'autre, et donc que ce qu'il désire, lui, je vais le désirer, parce que l'autre est pour moi, prend pour moi la figure d'un modèle. Mais cet autrui, ça peut être un autrui, ça peut être une personne, en chair en os que j'ai dans mon entourage, avec laquelle je vis, ça peut par exemple être un modèle éducatif, mais ça peut être effectivement les phénomènes de mode où on nous donne à voir et à penser et à digérer et à ingurgiter des modèles de ceci, des modèles de cela. D'accord, c'est bien pour ça que telle ou telle personnalité publique va vendre son image pour vendre un produit dans une publicité. Voilà, si tu aimes tel artiste, tel sportif, eh bien tu achèteras telle ou telle marque. Donc tout désir se forge à l'image d'un désir qu'il prend pour modèle, mais ce désir qui est pris pour modèle, lui-même, désire à l'image d'un modèle. Et donc finalement, c'est une sorte, vous voyez, de reproduction à l'infini, d'imitation. Et que finalement, mon désir d'objet, mon désir d'avoir ceci, d'avoir cette tenue, cette veste, cette chemise, cette profession, cette configuration personnelle, enfin bref, que sais-je encore, peu importe les aspects de l'existence, mon désir d'avoir est toujours l'expression d'un désir d'être, mais d'un désir d'être comme le modèle, qui lui-même désire être comme un modèle. Et finalement, on n'en sort pas. Quand vous parliez de... C'est pour ça que je me suis permis d'un petit peu approfondir la référence à René Girard. Quand vous parliez de piège, nous sommes piégés par des modèles, parce que finalement, l'économie du désir est celle d'un modèle à l'infini. Et refuser le modèle, je ne sais pas moi, je ne veux surtout pas vivre comme Bernard Arnault. Non, je ne veux pas. Voilà. Refuser de vivre comme Bernard Arnault, c'est encore finalement, déjà, le dire devant vous, c'est-à-dire, faites comme moi, refuser de vivre comme Bernard Arnault, donc c'est déjà se présenter comme un modèle possible, et c'est surtout, le refus de vivre comme Bernard Arnault, c'est, je ne peux l'exprimer que parce que j'ai d'autres modèles en tête, qui sont des modèles alternatifs à la vie d'un milliardaire sur cette terre. Et donc finalement, je ne sors jamais de cette circularité quasi infernale du modèle, avec les questions qu'on a commencé à se poser. Quelle confiance peut-on leur accorder? Quelle légitimité peut-on leur accorder? Quel champ d'application devrait se construit à partir du modèle ou devrait s'en émanciper. Quelle légitimité a ce modèle, en fait. Voilà, enfin, est-ce que j'ai raison de prendre ceci ou cela comme modèle. Tout ça pour en venir, et j'en aurais terminé avec ces questions de référence, etc., mais je pense que ça peut être assez éclairant pour le débat. C'est une citation de Spinoza. Spinoza était un philosophe du XVIe siècle que je trouve particulièrement éclairante de vérité. Spinoza, au détour d'un texte, c'est extrait de l'éthique, on est dans le livre 3 de l'éthique, peu importe. Spinoza donc réfléchit sur le désir, il nous dit que le désir est l'essence même de l'homme, et il ajoute un petit peu plus loin, nous ne désirons jamais une chose parce que nous la jugeons bonne, c'est-à-dire valable en elle-même, à suivre, c'est parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. Autrement dit, je ne désire pas une chose parce qu'elle serait objectivement valable, désirable, en soi, tel métier, telle personne, enfin bref, tel type de mode de vie. C'est parce que je le désire que cette chose, cette personne, cette orientation professionnelle va m'apparaître valable. Autrement dit, la valeur de la chose ne tient pas à la chose elle-même. La valeur de la chose tient au désir que je nourris à son égard. Et René Girard, quelques siècles plus tard, trace finalement son anthropologie dans les pas de Spinoza. Et il ajoute ça, c'est-à-dire que, vous avez raison Spinoza, c'est bien le désir qui donne la valeur aux choses, ce n'est pas les choses qui sont en elles-mêmes désirables, sinon nous serions tous en train de désirer les mêmes choses. Si vraiment il y avait des choses désirables et des choses indésirables, on serait tous d'accord pour dire, ça c'est désirable, ça ne l'est pas. Or, l'expérience nous prouve que nous ne désirons jamais les mêmes choses. Donc ce n'est pas, encore une fois, la chose elle-même qui est désirable, c'est le désir qui donne sa valeur aux choses, c'est le désir qui rend la chose désirable, et René Girard ajoute, mais ce désir lui-même se nourrit du désir des autres. C'est à l'imitation du désir des autres que je rends cette chose désirable. Si je suis heureux de ne pas vivre la vie de Bernard Arnault, c'est parce que, à mes yeux, la vie d'un milliardaire n'est pas désirable, mais si elle n'est pas désirable à mes yeux, c'est parce que j'ai d'autres modèles, encore une fois, en tête, et qui me piègent. Donc je suis moi-même un modèle qui hérite d'autres modèles, on n'en sort pas. Et c'est comme ça que René Girard explique les phénomènes de mode. Oui. Voilà. Le travail des influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est bien ça. C'est donner des modèles, des contre-modèles, etc.
Oui. J'ai du mal à intervenir après l'intervention de tes propos. Mais moi, personnellement, avant que tes propos, donc, j'étais soucieux de la position du sujet face au modèle. Parce qu'il me semble que quand on parle de modèle, c'est quand même quelque chose de relativement fermé, et le sujet subit le modèle. Et c'est pour ça que je mets en parallèle le terme de référence, où, me semble-t-il, c'est parce que j'ai une démarche active que je vais chercher des références qui me permettent de progresser dans ma démarche. Et effectivement, parmi ces références, je vais trouver des éléments qui sont posés scientifiquement ou autrement comme modèle. Mais à ce moment-là, le modèle n'est simplement que l'outil que j'utilise dans ma démarche, et non pas l'imposition qui m'est faite de me soumettre à ce qu'il dit.
Moi, ce qui est intéressant, c'est ce que tu introduis, je ne comprends pas la parole, hein, c'est la différence entre un modèle dont nous, finalement, dont nous serions l'objet, voilà, que nous pourrions être en état de l'accepter de manière contrainte. Donc la différence entre un modèle et une référence. La référence, ça serait plutôt de l'ordre du choix, de l'action, et donc peut-être de l'élection libre.
Non, c'est pas la peine, il a répondu à ma question.
Je voulais revenir sur justement la question des réseaux sociaux, parce que je trouve que c'est
un exemple assez intéressant pour voir justement le fonctionnement des modèles et l'aspect viral en fait, des effets de mode sur les réseaux, parce que ça va très 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 vite. Et du coup, on va dire par exemple sur Instagram, pour en citer un, il y a des gens qui vont commencer à faire certaines choses et très vite ça va être imité par un certain nombre de personnes et il va y avoir un espèce d'emballement et tout le monde va faire ça et ça va devenir comme une norme. On va dire c'est comme ça qu'il faut publier des choses sur ce réseau social là, c'est comme ça que vous allez vendre, c'est comme ça que vous allez devenir un bon influenceur et tout ça. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de voir comment dans ce petit milieu là quelque chose devient une norme alors que c'est quelque chose de totalement artificiel. Mais tout le monde pense, d'une certaine façon, comme si c'était normal, que ça a toujours été comme ça et que c'est comme ça qu'on doit se comporter. Donc là, dans l'exemple des réseaux sociaux, mais je pense qu'on peut appliquer ça dans la société de manière plus générale et sur des périodes plus longues, que des choses qui sont en fait très spécifiques, très artificielles, très ponctuelles, parce qu'il y a une imitation de ce modèle-là qui va avoir cet effet viral, devient une norme qu'il faut suivre et auquel on ne réfléchit même pas. Alors pour le coup, par rapport à la dernière intervention, peut-être que justement, si on se met à y réfléchir et à se dire « Ah, en fait, ce que je suis, c'est artificiel », peut-être que là, on peut sortir du modèle et commencer dans une forme de créativité pour être ou dans un contre-modèle.
Merci. Je voulais revenir sur deux points. Le premier que je t'ai entendu dire tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais s'il n'y avait pas de modèle, il n'y aurait que des perceptions. Mais le modèle n'est-il pas le fruit d'une perception? Ça ne peut être que le fruit d'une perception. Donc ce serait une différence de perception. Ça, c'est le premier point que je voulais partager. Et puis le second, c'est... l'autre question qui a été posée, est-ce le modèle qui donne un cadre? Est-ce que ce n'est pas le modèle qui donne un cadre? Moi, je me demande si ce n'est pas l'inverse. C'est le cadre qui génère le modèle. Et je reviens sur la société de consommation. Il y a bien un cadre, une sorte de cadre, qui est la société de consommation. Donc, pour qu'une société de consommation fonctionne, il faut générer du désir de consommation. D'où la mode, qui fait que nous remplaçons sans cesse les freins que nous avons, nous entassons. Donc c'est bien le cadre de ce mode de société qui engendre un modèle dans notre façon d'être. Voilà.
Je voudrais en venir à la mode. On change de micro. Moi, je voudrais en venir à la mode. Et je me faisais la réflexion qu'en fait, dans la mode, le modèle a tué le top modèle. Ça peut être c'est un peu la chose que je veux dire. Mais le modèle a tué le top modèle. C'est-à-dire que dans les années, il y a 20 ou 30 ans, nous avions les top modèles, les mannequins, qui étaient agréables à regarder. Alors que maintenant, c'est le modèle qui compte et la top modèle, c'est un peu un porte-manteau, un peu d'empresse. Et donc voilà. Donc, est-ce que, en fait, en voulant tuer le top modèle, est-ce qu'on n'a pas un peu déshumanisé la chose? C'est-à-dire qu'un beau top modèle portant un beau modèle de vêtements, c'était quand même agréable. Mais bon, si on continue comme ça, peut-être que dans 20 ou 30 ans, ça sera peut-être un robot ou un bout de ferraille qu'on fera déambuler avec un modèle de haute couture.
Dans l'or, je ne sais pas.
Je vais être extrêmement brève, mais pendant longtemps, le mot influençable était péjoratif. Et d'un seul coup, le mot influenceur, c'est devenu un métier
apparemment bien considéré. En tout cas, vraiment, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je n'ai pas du tout envie d'être influencée. Voilà.
Je ne sais pas.
Merci. Oui, j'ai l'impression qu'on s'oriente vers systématiquement l'idée que... Au fil des interventions et des propos, j'ai l'impression qu'on s'oriente systématiquement vers le fait que le modèle serait une mauvaise chose. Et je me dis que peut-être pas. Comme s'il fallait toujours s'affranchir du modèle, le casser, le critiquer, le piétiner, pour mettre en place autre chose au nom de la créativité ou de n'importe quoi. Que, effectivement... la mode, ce serait juste une affaire de suivisme, alors qu'il y a de la création dans la mode. Je pense que le modèle, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut rejeter, comme si chacun, individuellement, était au-dessus du modèle et capable d'inventer toujours des choses extraordinaires qui feraient que le modèle est systématiquement banal ou sans valeur.
En fait, je voulais dire oui. Ce qui est très important à mon sens, par rapport à ce qui, enfin, donc, dans la suite de la discussion, c'est la capacité des acteurs ou des individus à exploiter un certain nombre, et si possible un grand nombre de modèles différents, pour arriver à se situer et pour arriver à se définir. En fait, on est tous, comment dire, je suis d'accord avec cette présentation sur l'effet du désir, mais en fait, les désirs sont multiples, et en fait, il y a un enrichissement par chaque individu s'il a accès à un grand nombre de modèles qui permet la créativité et qui permet, en fait, de devenir différent ou de s'affirmer comme différent. Donc là, je pense que, et alors, à l'opposé de ça, je vais être un peu méchant. Pour moi, les influenceurs et ce mécanisme d'influence mimétique, lui, est pour moi synonyme d'acculturation et de tendance à copier sans réfléchir ce qui est proposé. Au contraire d'une démarche en fait qui puise dans un grand panel de modèles pour avancer ensuite et se définir soi-même.
Rassurant parce que on a la notion d'appartenance à un groupe ou à une communauté suivant nos croyances religieuses ou pas religieuses. Par rapport à l'abbé Pierre, je veux dire c'est l'homme peut-être c'est ce qu'il faut retenir, c'est l'œuvre, ce qui a été fait.
Ce qui est intéressant, je me permets juste de reprendre la parole, mais vraiment très très rapidement, très brièvement, c'est qu'effectivement, c'est ce que tu notais, c'est là il y a un petit point de bascule quand même dans notre discussion. C'est-à-dire qu'on est parti effectivement d'une critique au sens un peu négatif, en tout cas, oui, assez sévère l'idée de modèle, de la notion de modèle ou du recours au modèle, jusqu'à penser un modèle qui serait effectivement un cadre rassurant, qui serait le lieu un lieu de protection, un lieu de sécurité, un lieu d'affirmation, une assise de soi, et des modèles multiples qui nous permettraient peut-être, dans leur multiplicité, justement, de nous construire nous-mêmes, partir à la recherche de soi et d'essayer de trouver une voie qui soit la nôtre. Auquel cas, si je peux me permettre voilà, de revenir pour faire une micro-synthèse là, à mi-parcours, il y aurait un modèle peut-être dogmatique dont il faudrait se méfier, une sorte de modèle autoritaire, contraignant, un modèle massif qui pourrait être instauré par des institutions, je ne sais pas moi, type propagande stalinienne, le petit père des peuples, etc. Enfin voilà, on est tous avec ce modèle-là en tête. Donc soit par des institutions étatiques, soit par des systèmes économiques. Le capitalisme, c'est bien ça. Le capitalisme, c'est l'économie du désir, en fait. Il faut renouveler le désir pour pouvoir vendre. Et donc, pour pouvoir vendre, il faut donner envie de consommer. Jusqu'à, finalement, un modèle qui serait moins contraignant, peut-être plus souple, que tu appelais référence, à partir duquel nous irions puiser nos propres ressources.
Oui, bon, vous venez à peu près de répondre à ma question, mais c'était pour rebondir sur ce qu'avait dit monsieur, les fameuses références multiples. Bon, effectivement, c'est comme ça que je fonctionne actuellement. Et ça veut dire aussi, parce que des fois, moi, je parle pour moi, je peux prendre quelqu'un, une personne, un philosophe, quelque chose, comme argent comptant. Et dès l'instant où je ne vais pas être d'accord avec lui, je peux avoir, moi, l'envie de le détester. C'est-à-dire de le. Donc, parce que vous parlez de références multiples. Ça veut dire qu'il y a là des avis contraires, comme vous l'avez si bien dit aussi, par rapport à deux sciences différentes. Mais ça veut dire aussi apprendre, et je travaille là-dessus, moi, à ne pas les détester, parce que je peux avoir moi, deux avis contraires. Ainsi, j'entendais parler ce matin à un psychanalyste connu sur une religion, je n'étais pas d'accord avec lui, non. Et je sais que c'est un psychanalyste qui me parle. Et pendant 5 minutes, je n'ai pas question d'acheter son livre. Après, je me dis, mais attends, mais déjà, achète son livre. Bon. Et il est possible, que j'apprécie. J'essaie d'apprendre ça maintenant, à être d'accord, on va dire 80% avec une personne, ça me suffit. Les 20% de son, je ne le prends pas, que je vais retrouver ailleurs, vous voyez. Donc il y a là une articulation. Hein.
Ça va être...
On a envie d'avoir des modèles de micro.
Ça va être très basique ce que je vais dire. C'est que je pense aussi, surtout en tant qu'enfant, avoir des modèles, ça permet de rêver. Voilà, personnellement, moi j'étais. Je précise que je faisais partie d'une petite ville dans un petit club de basket. Donc j'avais pas beaucoup d'entraînement. Mais déjà j'avais envie de réussir. Et j'avais des modèles. J'avais certains peut-être connus, j'étais Chazalon, donc j'avais un modèle de joueuse qui s'entraînait beaucoup, qui était une belle. Donc je faisais mes petites recherches. Et puis c'était quand même quelqu'un qui s'entraînait beaucoup seul. Donc elle m'a poussée à m'entraîner beaucoup seule, à y croire. Et elle avait un geste technique, un tir vraiment particulier qu'elle a presque créé, donc un tir à deux mains. Donc il y avait un modèle qui m'a permis justement de progresser. Après, ce modèle a évolué. C'est-à-dire que le tir au basket est passé avec une notion plus américaine, un tir à une main. Je ne suis pas restée dans ce modèle. Heureusement, j'ai eu la chance de croiser des entraîneurs qui m'ont permis de changer ma technique. Donc je pense qu'il faut nécessairement avoir des modèles, mais pouvoir s'en séparer, voire les critiquer, pour passer à autre chose. Mais la notion de rêve, surtout chez les enfants, et puis modèle, chez moi, il y avait aussi un côté exemplaire. Voilà. Moi, je suis enseignante, mais je pense qu'on le dit peu assez, mais souvent, on enseigne plus ce qu'on est que ce qu'on fait. Et cette notion de servir d'exemple, enfin, moi, je trouve que ça se perd, quoi, beaucoup, et voilà, dans le sens. Un modèle, c'est aussi un exemple.
Merci.
C'est à moi ? Non ? C'est une question. Un seul coup.
Moi, le mot référence me plaît bien parce que. La référence, c'est aussi ce qui permet de dialoguer, de réfléchir, de déguiser son esprit critique, c'est-à-dire que si, à partir d'un modèle qui est une référence, ben, on a quelque chose, donc on peut dire, on peut l'examiner, l'analyser, le vivre, le confronter, et donc, pour moi, le terme référence me va bien, parce que ça permet de... Voilà, ça permet à la fois le mot référence et puis aussi le mot, c'est presque un langage, enfin pas un langage mais une langue. C'est-à-dire que si tout le monde connaît un modèle ou une référence, ça permet d'en parler avec quelque part des mots, enfin, quelque chose qu'on a en commun pour se faire. Hein. Et il y a quelque chose du langage, je ne sais pas si c'est le bon terme. Et puis l'autre notion, effectivement, qui dit modèle dit aussi esprit critique, mais ça a été évoqué aussi.
C'est pas facile, ça.
Esprit critique. Oui. Vous avez. Je vous laisse la parole tout de suite. Voilà, mais effectivement, il y a l'idée que le modèle, c'est aussi un exemple. Et puis que le modèle, c'est ce qui nourrit, c'est ce qui permet le partage.
Oui.
Le modèle, on ne sait jamais un modèle. Seul, on n'a jamais un modèle tout seul dans notre trajectoire d'existence. On a des modèles qui sont partagés par des communautés, effectivement, et ça renvoie peut-être à l'ancrage communautaire que vous évoquez, et à la question peut-être aussi de la sécurité. Je ne suis pas seul, nous partageons des modèles. Ce qu'on voit bien l'admiration qu'on peut avoir pour tel ou tel artiste, sportif, qui remplissent des stades, qui remplissent des salles entières, et qu'on acclame, voilà, on connaît leur chanson par cœur, on est tous arrivés à au moindre fait des gestes, avec le risque effectivement de basculer du côté du fanatisme. Un fan, c'est bien quand même d'abord un fanatique, et donc de perdre cette distance que vous évoquiez, monsieur. Je vous laisse la parole, madame.
Merci. On entend bien ce mot. En fait, moi, je vais dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais pour moi, un bon modèle, ça doit être éphémère, et c'est impermanent, parce que sinon, ça nous mettrait, enfin, on serait figé sur un modèle. Et moi, pendant des années, je pensais qu'il n'existait qu'un mode de communication, et je me suis aperçue qu'il en existait d'autres. Et du coup, j'aurais pas découvert d'autres modèles, je serais restée sur ce modèle-là qui n'était pas forcément celui qui me convenait le plus et qui était juste. Donc je voulais dire ça, et ça nous permet aussi, effectivement, comme disait certaines personnes, de nous émanciper, de nous éveiller à autre chose. Et d'un autre côté, un modèle peut être aussi une base créative. Moi, je sais que je m'inspire beaucoup de certains modèles, mais derrière, après, je mets ma petite plume ou ma petite touche personnelle. Donc, je trouve, enfin, pour moi, le modèle n'est pas complètement à bannir. C'est l'usage qu'on en fait et comment on le fait évoluer, en fait. Et voilà.
Merci.
Merci. Alors, moi, j'avais envie d'évoquer aussi. Quelque chose qui est, à travers le modèle, l'importance de la représentation. Je crois que c'était dans ses écrits de Louise Dupin, donc une contemporaine de Rousseau, qui disait que finalement les femmes n'étaient pas bêtes, mais comme il n'y avait pas de représentation de modèle féminin de philosophe, eh ben, on avait l'impression qu'elles n'existaient pas. C'est vrai qu'elle dit ça à cette époque-là, et aujourd'hui on se rend bien compte. Mais par exemple, avec les Jeux Olympiques et le fait que Simone Biles, qui est la plus grande médaillée au monde, est une femme noire et qui sert le modèle de représentation à de nombreuses jeunes filles, qu'en fait, c'est important aussi d'avoir des modèles qui ne peuvent pas spécialement rester uniques, et c'est bien de diversifier, mais d'avoir au moins un grand modèle qui puisse faire dire à des personnes ben, « oui, c'est possible parce que ça existe déjà ». Ben, je trouve que c'est très intéressant et que c'est finalement pas une idée qui est novatrice, qui existe déjà depuis longtemps.
Je vous laisse réagir tout de suite, si vous le souhaitez.
Je pense que là, ça pose la question aussi de la légitimité du modèle. Si la femme n'était pas légitime, elle ne pouvait pas être le modèle.
On l'entend très bien.
Vous m'avez entendu?
Oui.
femmes n'avaient pas accès à la connaissance, si on considérait en tout cas qu'elles n'y avaient pas accès, elles ne pouvaient pas être légitimes. Le rabbi n'était pas légitime, ne pouvait pas être reconnu. Donc, elle ne pouvait pas être modèle.
Alors, pour Louise Dupin, elle répond à cet argument en disant que à cette époque-là, ce sont souvent les prédicateurs et des prédicateurs religieux qui dispensent le savoir et que femmes comme hommes ont le même accès au savoir. C'est déjà un peu une militante de l'égalité homme-femme avant l'heure, si vous voulez. Donc, elle balait très facilement cet argument-là, mais après, il faudrait peut-être se replonger, je ne sais pas s'il y a peut-être un expert dans la salle, mais sur ces écrits-là, pour aller un peu plus loin là-dedans. Mais je sais que cet argument-là, justement, elle le balaye, comme l'argument sur la maternité, qui est censée faire des femmes moins travailleuses, parce qu'elle dit que finalement, après un certain âge, les femmes deviennent l'égale de l'homme, puisqu'elles ne sont plus fertiles, entre guillemets, et que finalement, la maternité ne correspond qu'à quelques mois d'incapacité de travail. Donc en fait, on avait déjà des idées assez novatrices pour l'époque.
Il y en a eu, mais enfin, on leur a fait...
Attendez votre tour, peut-être, madame.
Madame, vous vouliez... Non, vous n'avez pas levé la main.
Non. D'accord. Alors, personnellement, je vais peut-être redire la même chose, mais autrement. Ce qui me paraît à partir du questionnement au sujet des influenceurs, des conduites à adopter, à suivre, par exemple, où le modèle est en lui-même le projet à suivre. Et dans ce cas, on est dans une... La conduite est dictée. Ou le modèle n'est que un des outils qui permettent d'atteindre ou d'aller vers le but, vers le projet accompli. Je prends l'exemple des apprentissages qu'on a évoqués au début. Apprendre à écrire... Effectivement, c'est reproduire un modèle adopté par la société. Là, il n'y a pas le choix. Mais par contre, apprendre à former les lettres ne dicte pas le contenu du texte que je vais écrire. Et apparemment, je peux donc prendre un modèle d'écriture sans subir le texte à écrire. Et il me semble que là, on trouve la place du modèle dans disons, une dynamique active et non plus une soumission à un modèle qui nous est dicté.
La question, ça a l'air de bien fonctionner, là. Mais la question que je me posais, j'ai du mal à l'exprimer, mais enfin je vais essayer quand même, c'était peut-on subir les modèles ? C'est-à-dire un autre insu, dire clairement, je suis comme je suis, mais je me reconnais dans ce modèle-là. Exemple, il y a des désirs qui peuvent être insatisfaits. On voit dans les publicités la super voiture, la dernière voiture qui ne pollue pas. À chaque session publicitaire à la télé. Mais je suis sûr, je ne peux pas lâcher. Donc, en fait, un certain nombre de modèles qui nous sont proposés ne vont avoir que comme conséquence une frustration, quelque chose de négatif. Et c'est dans ce sens-là, je veux dire, on subit. On subit. Il y a X, on est dans un lycée, ça tombe bien, je parlais des étudiants, il y a X reportages en ce moment où on nous montre que les étudiants sautent à repas ou vont... est-ce que là aussi, l'étudiant qui est dans ce cas-là, quelque part, il vivait tout seul dans son coin, et puis parce que ce modèle-là lui est proposé, il va... l'accepter ou pas l'accepter, mais quelque part, ça le concerne et il va le subir. Comment, quelle suite il va donner, comment il va s'en sortir par rapport à ce modèle qu'on lui propose d'étudiants pauvres, enfin, disons, vous voyez, toutes les réalités qu'on nous propose. Donc, finalement, subir des modèles, c'est comment, quelle suite donner, comment s'en sortir par rapport à tous ces modèles qui sont des agressions vers nous. C'est peut-être un aspect qu'on n'a encore peut-être pas abordé. Les modèles nous agressent, comment on s'en sort, quelle suite on donne, et est-ce que finalement on les accepte?
Oui, c'est fait. Finalement, de quelle liberté disposons-nous face à l'émergence et à la mise en place de modèles? Ça renvoie un peu ce que vous disiez sur la question des femmes évoquées au XVIIIe siècle, c'est qu'il y a une politique du modèle. C'est que le modèle, c'est aussi une affaire politique, c'est une affaire économique, c'est une affaire commerciale. Une publicitaire, c'est quand même quelqu'un qui construit des modèles pour vendre la voiture de nos rêves. Si tant est qu'une voiture puisse être un rêve, enfin bref. Mais vous voyez, ça, c'est des modèles qu'on a dans la tête. Et donc, il y a quand même une politique du modèle, effectivement. Ces modèles ne tombent pas du ciel. Ils sont toujours orientés en vue d'une finalité donnée. Et peut-être que l'une des fonctions politiques principales, au sens noble de la politique, au sens de l'art de gouverner, c'est précisément de donner des modèles à celles et ceux qui gouvernent. Un modèle démocratique, un modèle tyrannique, un modèle... Ouais, voilà. On voit bien qu'il y a une contamination des désirs qui peut très vite, venir tordre une communauté. Enfin, je pense la façon, par exemple, dont les Hutus se sont, rués massivement vers le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. En 3 mois, on est sur 1 800 000 ou 1 million de victimes, avec finalement des modèles qui étaient balancés à longueur de journée à la radio, dans les médias, sur la radio Mille Collines notamment, où entre deux morceaux de musique à la mode, il y avait des invitations, des incitations même au massacre. Et donc effectivement, là, il y a bien une politique du modèle qui agresse et qui finalement tord la psyché humaine, de sorte que finalement, demain, rendez-vous à 8h sur la place de l'église pour aller abattre les grands troncs, comme on désignait les Tutsis, et donc finalement pour se faire génocider.
Alors, je me suis un petit peu perdue, mais je reviens au monsieur. Je pense que... Je me demande, en fait, que si on est à la recherche d'une certaine efficacité, le modèle est nécessaire, utile. Mais si on est à la recherche d'une certaine vérité, intériorité, dans ces cas-là, peut-être que le modèle peut vraiment inhiber. Je fais justement deux parallèles. En tant que sportive, j'ai vraiment besoin beaucoup de modèles techniques, etc., pour progresser. Maintenant, j'ai fait du théâtre. Quand je faisais du théâtre, je ne regardais jamais ce qui avait été fait par des grands du théâtre. Parce que moi, ça m'inhibait. Et parce que je pense que dans le théâtre, pour avoir le ton juste, il faut vraiment trouver son personnage dans son intériorité. Voilà, et je serais curieuse de savoir ce qu'en pensent les peintres et autres artistes qu'il y a ici. Moi, je voulais juste dire une anecdote que j'ai vue il n'y a pas très longtemps à la télévision concernant une publicité autrichienne où, juste avant le vote qui s'est passé récemment en Autriche, plusieurs McDo, mais des vrais, avait affiché un seul Big Mac, je ne sais pas lequel, mais tous les vrais clients qui rentraient, ils n'avaient pas le choix, ils ne comprenaient pas, ils voyaient tous ces Big Mac qui étaient tous les mêmes. Et à la fin, on leur expliquait, vous aurez le choix en allant voter. Et je trouvais ça formidable comme publicité. C'était à la fois drôle et instructif. Hein. Voilà.
depuis tout à l'heure, du coup, je réfléchissais notamment à la question émotionnelle qui est liée au modèle. Parce qu'il y a les modèles scientifiques, les modèles... Il y a plein de formes de modèles, mais le modèle humain, je trouve qu'on a quand même un rapport qui est souvent assez émotionnel, commençant par les parents. Souvent, plus on va aimer un modèle, plus on va être aussi... Enfin, on va vouloir le défendre et on sera blessé que ce modèle soit critiqué et encore plus blessé si ce modèle perd de sa valeur à nos yeux. Par exemple, l'abbé Pierre, où il y a des réactions très, très émotionnelles, voire irrationnelles, par exemple. Mais on l'a partout et ça m'interroge justement cette question, ce rapport émotionnel au modèle, parce que justement, on pourrait se dire rationnellement, voilà, bah, en peinture, on va commencer par copier un tel pour apprendre la technique. Pourquoi on aurait forcément de l'émotionnel derrière? Et du coup, cette question-là du fait d'aimer ou de ne pas aimer son modèle, comme disait monsieur tout à l'heure en disant, s'il aime à 80% son... La personne qui va lire, bon bah ça va encore, mais c'est pas évident d'accepter, de se dire, bah tiens, cette personne, je l'admirais, mais en fait là, ça va pas, ou là, je suis pas d'accord. Et pourquoi on a ce rapport-là émotionnel derrière?
Oui, monsieur, oui.
Pour rebondir là-dessus, en fait, ça pose la question. En fait, est-ce qu'on aime ou qu'on admire ou qu'on souhaite suivre une personne dans ce cas-là, ou est-ce qu'en fait on aime l'image qu'on s'en fait? Et en fait, ça me rappelle ces histoires qu'on a de fans, d'artistes, d'acteurs, de tout un tas de producteurs de contenu, on va dire, des fans qui se retrouvent face à cette personne et qui se comporte comme si elle la connaissait, comme si c'était leur amie, alors qu'en fait, elles ne connaissent qu'une partie que ce que la personne en question elle a bien voulu montrer, donc en fait, elles se sont fait une image fausse de leur propre modèle, et donc, elles se retrouvent face à une autre version, et en fait, il peut y avoir un sentiment de... On se retrouve face à ses propres erreurs, donc en fait, quand pareillement, on écoute quelqu'un avec qui on pensait être d'accord et qu'en fait on se rend compte que sur certains points elle ne pense pas comme nous, c'est aussi notre propre remise en question qui doit être faite, et c'est notre capacité à se dire et à reconnaître son erreur, à se dire bah peut-être qu'en fait c'est pas le modèle en question qui a tort, mais c'est moi qui avais tort. Et ça demande un travail, je pense, pas toujours évident à accomplir sur soi, de se dire c'est moi qui suis en tort, c'est moi qui ai fait une erreur. Comme on dit, l'erreur est humaine et il ne faut pas persévérer dedans.
Oui, sur le travail de projection, en fait.
J'ai tendance à dire qu'est-ce qui fait que je veux être d'accord avec l'autre, qu'est-ce qui fait qu'à partir du moment où je ne suis pas d'accord avec l'autre, je ne vais pas aimer la personne, ou je ne veux pas l'apprécier. Je crois qu'il y a une grosse confusion entre la personne, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, je dirais entre l'être, que cet être fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Et que du coup, le fait de tout mélanger fait que non, je ne suis pas d'accord, non, je n'aime pas. Ça fait penser à ce que vous exprimiez par rapport à votre au livre de... Il y a ce que cet homme écrit, il y a l'être qu'il est. Et c'est... Voilà, je trouve que ça s'arrête bien. Merci.
On ne va pas tarder à conclure, donc si vous avez envie de d'intervenir, n'hésitez pas. Oui, madame, oui.
Attendez, on va vous donner un micro, s'il vous plaît.
J'avais envie d'ajouter, là, il y a l'être, mais aussi ce que cet être représente, la représentation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il rend présent. Est-ce que c'est son être ou est-ce que c'est l'image qu'il renvoie, en tout cas qui est donnée à voir, et que de bonne foi je regarde en le prenant pour son être. La différence entre l'être et la représentation. Je me posais cette question.
votre intervention. Oui, madame, oui. Et puis,
Pour rebondir sur ce que je vous entends dire, madame, je crois qu'effectivement, il y a une donnée que j'ai oubliée qui est très importante, c'est l'être et le personnage.
Ouais, peut-être qu'on peut partir de là, effectivement, pour essayer de conclure, non, mais en tout cas de donner une sorte de tour d'horizon sur cette question de avons-nous besoin de modèles, avons-nous nécessairement besoin de modèles. Effectivement, ce qu'il y a de commun entre le modèle scientifique et le modèle social, le modèle psychologique, celui qui nourrit nos existences et qui est un moteur de l'économie de nos désirs, c'est cette question de la représentation. On l'a un petit peu évoqué, c'est-à-dire que le modèle représente quelque chose. Il n'est pas cette chose. Il n'est pas l'être, il est la représentation de l'être. Et représenter, sans vouloir faire des mauvais jeux de mots, c'est présenter deux fois. Présenter deux fois, c'est-à-dire c'est... Il y a un jeu de miroir dans la représentation. C'est ce que vous avez évoqué dans les dernières interventions. Dans la représentation, il y a ce que nous projetons, nous, sur celui ou celle, je vais laisser le modèle scientifique de côté, sur celui ou celle que nous considérons comme modèle. C'est-à-dire effectivement, on subit un modèle, mais on le transforme, ce modèle. On le dessine, on le modifie. Finalement, on l'aménage à notre sauce en fonction de la complexion de notre désir. Chez Stendhal, l'écrivain, le romancier que vous connaissez, c'est un épisode très célèbre dans un traité sur l'amour, qui s'appelle De l'amour, c'est un traité sur le sentiment amoureux. Et Stendhal évoque à un moment donné la notion de cristallisation. De cristallisation pour expliquer à ses yeux la genèse du sentiment amoureux. Et il prend cette petite anecdote que je vous décris très rapidement. Finalement, tomber amoureux d'une personne et nourrir un sentiment à son égard, c'est comme prendre un petit bâton, une branche là dans la forêt, qui est ce qu'elle est. Cette branche, elle est ce qu'elle est, avec ses qualités, ses défauts, bref, c'est une branche. D'accord. Et puis, vous allez dans l'est de la France, à l'époque, il y avait encore des mines de sel dans l'est de la France, ou en Allemagne, enfin bref, en est, et vous plongez votre branche, votre petit bout de bois là, pendant quelques semaines, quelques mois, dans cette mine de sel. Et vous laissez la cristallisation s'opérer. C'est-à-dire que très rapidement, des cristaux de sel vont s'amonceler autour de cette branche. Et puis quelques semaines, quelques mois plus tard, vous allez chercher cette branche. Et puis finalement, vous n'avez plus la branche que vous aviez au départ. Vous avez la branche cristallisée. Mais finalement, ce que vous avez, c'est un rameau. C'est des diamants, ça brille de mille feux. Et finalement, ce dont nous tombons amoureux, le modèle que nous érigeons, finalement, ce n'est pas le modèle, ce n'est pas l'être lui-même. C'est tous ces cristaux, c'est-à-dire la force de nos désirs, que nous y ajoutons, que nous projetons sur lui. Et finalement, quand j'aime une personne, quand je prends cette personne comme modèle, ce n'est pas la personne elle-même, effectivement, c'est la différence entre l'être et le personnage, entre la personne et le personnage, d'accord ? C'est toutes les qualités que je lui prête, c'est ce travail d'idéalisation. Le modèle, c'est le fruit de notre imagination, c'est le fruit d'un travail d'idéalisation dont nous sommes en partie responsables. Donc effectivement, il y a d'abord cet écart entre la réalité et le modèle. Et ce que dit Stendhal, c'est que, en fait, une fois que j'ai ma branche avec tous ces cristaux qui brillent de mille feux, là, comme une couronne de diamants, mais en fait, c'est très fragile. Et on en vient à la deuxième fonction du modèle, enfin, deuxième caractéristique du modèle, c'est que, vous l'avez évoqué dans vos interventions, c'est que le modèle, il est par définition, et fort heureusement peut-être, éphémère, provisoire. C'est-à-dire que cette branche-là, il suffit d'un coup, voilà, d'un choc, et pour que les cristaux de sel tombent, et puis que je me retrouve avec ma branche, de départ. Ou que le temps fasse son œuvre et que les cristaux se perdent les uns les autres, et que je me retrouve encore une fois avec l'être tel qu'il était. Et ce que dit Stendhal à propos du sentiment amoureux, puis je vais laisser Stendhal de côté, c'est que c'est à partir du moment où il y a eu cette décristallisation, à partir du moment où j'ai désidéalisé, à partir du moment où je suis désenchanté, au sens propre, que naît le véritable amour. C'est-à-dire que je peux vraiment aimer la personne, non pas pour l'image que je m'en fais, mais pour ce qu'elle est en tant que telle. Je ne sais pas, ça sera l'objet d'un autre café philo si vous souhaitez. Mais si on va en revenir à partir de Stendhal à cette notion de modèle, on a une deuxième caractéristique, c'est que le modèle, il est provisoire. Il est provisoire de toute nécessité. Comme vous le rappeliez, les modèles scientifiques sont valables en fonction, non pas des perceptions que nous avons de la réalité, mais des observations fondées, légitimées, contrôlées, réglées par des protocoles scientifiques. Alors, les modèles scientifiques que nous avons sont provisoires en ce qu'ils dépendent de l'état de nos connaissances, des outils, l'outillage technique dont nous sommes aujourd'hui bénéficiaires. Ça, c'est un premier point. Mais les modèles sociaux, les modèles psychologiques sont eux-mêmes provisoires, soit parce que nous en sommes déçus, on a évoqué la figure de l'abbé Pierre précédemment, soit parce que ce modèle qui nous rassure, qui nous protège et qui permet le partage, qui permet la construction de soi-même, il doit être provisoire. Non seulement il l'est de fait, mais il devrait l'être de droit. Un modèle qui ne serait pas provisoire serait un mauvais modèle. C'est-à-dire que le modèle, c'est précisément ce dont je m'inspire, ce sur quoi je prends assise pour m'émanciper, pour essayer d'identifier la forme de mon intériorité. Vous avez une phrase de Lao Tse, je prononce mal, donc je ne sais pas le prononcer en mandarin, qui est vraiment, je trouve, vraiment très très belle. Mais il parle du rapport de maître à disciple, qui est un rapport de modèle. Et Lao Tse dit « Tout maître est un mur, le bon maître est une échelle. » Tout maître est un mur, il faut le comprendre dans les deux sens. Un mur, c'est à la fois ce qui m'empêche de passer. C'est ce qui fait obstacle. Donc, le maître, c'est celui qui, à un moment donné, m'empêche de trouver ma voie, m'émanciper, de m'affranchir de son autorité. Mais le mur, c'est aussi ce sur quoi je me repose. Le mur, c'est ce qui me permet de me tenir. Il faut bien s'opposer au mur pour se poser soi-même. Et donc finalement, le maître est un mur au sens où il me donne une assise, il me donne le soutien de mon identité, et en même temps, c'est parce qu'il me donne cette assise qu'il forme un obstacle. C'est peut-être la différence entre la référence et le modèle. Et le bon maître, dit-il, est une échelle. C'est-à-dire que le bon maître, c'est ce mur, oui, il faut avoir un petit peu d'imagination, c'est ce mur qui se transforme en échelle. C'est-à-dire qu'il me permet de dépasser le mur. Non seulement de le dépasser pour trouver ma voie, c'est peut-être ça le bon maître, le bon modèle, mais qui me permet, en dépassant le mur, d'être pour moi-même et pour les autres, moi-même un modèle. Puisqu'on ne sort pas, on a évoqué avec René Girard, avec Spinoza, on ne sort pas finalement de la logique du modèle. On est toujours soi-même un modèle qui prend modèle sur d'autres, etc. Dans une sorte de reproduction infinie des modèles. Et donc finalement, peut-être que avons-nous nécessairement besoin de modèles ? Ben oui, on en a besoin. On en a besoin pour s'éduquer, on en a besoin pour apprendre, on en a besoin pour croire en soi, on en a besoin pour poursuivre, pour avoir des ambitions, pour avoir des rêves, pour le dire de manière un petit peu emphatique. On en a besoin comme des exemples. Mais peut-être que le meilleur exemple que puisse donner un modèle, c'est de s'effacer comme modèle. Et vous voyez bien que qu'est-ce que c'est que l'éducation ? Qu'est-ce que c'est que le travail éducatif ? Des parents, des professeurs, enfin bref, toutes les instances éducatives, ce sont précisément des modèles qui acceptent de s'effacer en tant que modèle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre enfant, il est là, et si vous avez bien fait votre travail, je ne sais pas si c'est un travail, si vous avez bien fait votre fonction, si vous avez bien fait fonction de parent, de professeur, etc., c'est précisément celui qui va permettre à l'autre de s'affranchir et finalement de s'émanciper et donc de créer. On le voit bien, et là c'est le lien avec le modèle au sens artistique, c'est qu'il n'y a de création que par le modèle. Sans modèle, je vous disais qu'on n'apprend pas à écrire sans modèle, bah oui, bien sûr. Roland Barthes disait la langue est fasciste. La langue est fasciste, elle nous impose des modèles. Bah oui, l'orthographe, c'est du fascisme. Voilà, c'est la règle de l'accord du verbe avoir, participe, passé, etc. C'est du fascisme. Bref, la langue, mais on en a besoin. On a besoin de ça pour partager, justement. C'est-à-dire que, précisément, voilà, le modèle, on en a besoin pour apprendre, mais précisément on en a besoin pour dépasser ce que l'on a appris. Et dans le domaine de la création, artistique ou autre, c'est précisément cela, c'est-à-dire que la différence entre le disciple et le maître, entre l'artiste et l'imitateur, c'est précisément que l'artiste est à lui-même, ou devient à lui-même, et pour lui-même et pour d'autres, son propre modèle. C'est que Picasso, jeune, il peint à l'identique et de façon admirable les grands maîtres, les Velázquez et les Goya, et puis à un moment donné, il invente avec d'autres le cubisme, et puis à un moment donné, il rompt avec le cubisme, et puis il invente son propre langage pictural, jusqu'à devenir lui-même un modèle dont il faudra s'émanciper. Et on voit bien que finalement, qu'il s'agisse du domaine de la connaissance, de la science, qu'il s'agisse de l'économie de nos désirs, qu'il s'agisse de la création, le modèle est à la fois nécessaire comme le socle à partir duquel une affirmation de soi est possible, et en même temps, toujours et fort heureusement provisoire, sauf à devenir fasciste et dictatorial, pour que, précisément, nous puissions découvrir ou tâcher d'imaginer notre propre voie en fonction de notre propre modèle. Mais on n'en sortira jamais. C'est-à-dire que nous sommes toujours piégés par des modèles. Simplement, certains modèles sont plus émancipateurs que d'autres. Et je reviens sur ce que vous disiez, monsieur, à charge pour nous aussi d'essayer, et c'est difficile, de prendre ses distances avec ces modèles, d'accepter d'en changer, d'accepter finalement de rompre avec ce que nous avons peut-être pendant un temps idéalisé, comme Stendhal et son petit bâton, pour jouer sur les différences, jouer sur la circularité des différents modèles, et c'est dans ces interstices-là que nous pouvons peut-être trouver notre voie. Jean-Paul Sartre, et j'en aurai terminé, disait « Penser par soi-même, c'est toujours penser contre soi-même. » Et il dit ça dans La Nausée, dans le roman La Nausée, et il dit « Je mesure la pertinence d'une idée au déplaisir que j'ai à l'entendre ou à la soutenir. » C'est-à-dire qu'une pensée qui m'est trop confortable, dans laquelle finalement je m'y reconnais comme si j'étais chez moi, c'est une pensée que j'ai prise pour modèle, et qui finalement peut-être m'enferme dans un horizon. Et donc pour réellement penser par soi-même, il faudrait accepter de penser contre soi-même, c'est-à-dire d'essayer de penser ce que d'autres pensent, à l'opposé de nous-mêmes, ou en tout cas à la différence de nous-mêmes, pour mieux repérer la diversité des modèles possibles, et pour mieux finalement s'affirmer dans sa singularité. Je vous remercie.